Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel. Bonsoir, nous voici donc à nouveau ensemble pour la suite du roman de Jean Vautrin, Un grand pas vers le bon Dieu. Au détour d'un piétinement debout dans l'éclaircie d'une levée de lance, Edius localisa sa barque, tapie dans les roseaux. C'était un bateau plat conforme à celui des Indiens, pointu aux deux extrémités qu'il avait creusées dans un billot, le genre de pirogue capable de naviguer sur la rosée, de marcher sur les nénuphars ou de nager dans un crachat. Amarré au chicot jaunâtre d'un cip, elle prenait dans les reflets sombres des allures de saurien qui se déguise. Un vrai cocodrille. Il tira sur le bout pour aller l'embarcation jusqu'à lui. Il balança sa poule noire en saquée à double tour, comme avait recommandé de le faire Mlle Grandois, et à longs efforts sur sa rame s'éloigna sur la pirogue en direction de la pointe du bayou. La traiteuse se tenait sous la lumière atténuée d'un grand parasol indigo. Nichée dans sa berceuse, pour ne pas être trop fatiguée, elle se penchait de temps à autre vers un tas de mousse espagnole posé devant elle sur un grand carré d'indienne. Poignée après poignée, en prenant le temps de chanter, elle en bourrait un matelas qu'elle finirait de coudre avant la nuit. Sa chanson était paresseuse et nostalgique. Sa chanson allait comme ceci. Femme-là, dis-mo malheur, femme-là, dis-mo malheur, voyez, y a mo malheur, femme-là, dis-mo malheur. Ces mots répétaient inlassablement la mémoire du passé. Elle s'interrompit en levant la tête. Elle vit apparaître, dansant dans la vapeur de chaleur, la silhouette blanche et incertaine d'un homme qui grimpait la pente de la berge. Elle la laissa approcher jusqu'à elle, et ayant reconnu Edius, attendit qu'il parle le premier. Elle le regardait avec une curiosité mesurée, sans douceur excessive peinte sur le visage. Elle laissait peser le poids de sa poitrine sur le devant de son corps lourd. Elle avait allumé une cigarette et transpirait un peu sous le casque de ses cheveux à cajou. Immobile sous sa robe de coton qui moulait les bras et les cuisses, elle était quiète et opulente. Environnée d'un filet d'âcre fumée jaune qui se dissolvait imperceptiblement sur fond d'eau lointaine. Edius se tenait debout devant elle, mince, dans son pantalon de toile, le visage douloureux, le chapeau à la main, les cheveux ébouriffés en couronne. « Hey, petite mamselle Grandois, qui fait chaud » finit-il par dire en la fixant de ses yeux rougis par la fièvre. Il posa son sac devant lui et ajouta en levant son coude comme une aile.
Vous savez sûrement comment ça se passe. On croirait que le feu a pris des chandelles autour de mon bras. »
La négrette renversa son corps au fond de sa berceuse. Elle posa sur l'homme éreinté par l'infection le sombre de ses prunelles, deux lacs noirs entourés d'une taie blanche, et lut l'inquiétude de la maladie. Elle grogna comme on gronde un enfant.
« Tu connais quelque chose, vieux tête dure? Il n'y a pas de différence entre toi et une bourrique. pourquoi t'as tant tardé avant de retourner me voir ?»«
Ben, je croyais que ça allait guérir. Je croyais en la pommade. »
Mlle Grandois fronça la peau de sa figure. Mille fissures la firent ressembler à une fleur oubliée dans un livre.
« C'est la première fois que j'entends un mulet parler avec des paroles d'homme, » dit-elle en dévisageant Raquin.
« Tu ne me dis pas toute la vérité ?» À part avaler sa salive dans un gosier sec, il n'ajouta rien. Elle l'observa encore et laissa monter sa main devant ses yeux pour se protéger de l'éclat diagonal du soleil. Il s'efforça de faire bonne figure, de soutenir son regard.
Hé, hey, petit bougre, te crois pas obligé ?
Et il eut l'impression qu'elle lui offrait la clé pour ouvrir son désarroi.
J'ai vu un zombie sur un cheval bronque,
avoua Edius. D'une traite, il lui raconta ce qui s'était passé le soir de l'ouragan, et comme il se taisait soudain, il eut l'impression fugace d'avoir entendu hennir un cheval derrière lui.
La négresse se leva avec beaucoup d'effort de son fauteuil à bascule.
Une fois rendue sur ses pieds nus, elle parut se désintéresser de son visiteur. Elle se pencha pour se saisir d'une poignée de mousse espagnole et contempla avec une grimace son ouvrage interrompu.
« Tchut ! Depuis ce matin, je me baisse comme une ramasse coton !» dit-elle en retrouvant sa voix chantante.
Elle enjamba le matelas et sourit faiblement.
« C'est trop cher de travailler » maugréa-t-elle.
Un mauvais nuage passa devant ses yeux. Elle tira sur sa cigarette et l'instant après, elle sourissait à nouveau. Toujours, elle était changeante. Elle s'immobilisa devant Raquin, appuya son pouce sur la paupière inférieure du malade et dégagea son œil infiltré.
« Otto Vinitar !» constata-t-elle.
Elle examina l'enflure des chairs à hauteur du coude, fit sourdre un peu d'humeur en appuyant pas fort et caressa le front du patient.
« Me laisse pas ça te tracasser avec une tisane et des prières, y a pas de mal qui résiste. »
Sans s'adresser à lui avec trop d'égard, elle lui intima de se mettre à genoux, de retirer son chapeau malgré la brûlure du soleil et de prier le grand juge le temps qu'elle aille préparer sa médecine. De son pas traînant, elle s'éloigna vers sa cabane en roulant des hanches. À part un vasistas, l'unique fenêtre était aveuglée par des volets tirés. Personne alentour ne pouvait se vanter d'avoir jamais franchi le seuil de la négroille. Tandis qu'il marmonnait ses prières, Edius pouvait entendre chanter Mlle Grandois. Même si sa voix charnue comme un fruit lui arrivait par bribes, étouffée par la distance, les paroles, il savait, allaient comme ceci, à propos d'une histoire de reptile. « Depuis, moi, vois-toi, Adèle, après danser Kalinda. Moi, jamais vois aérien, ni t'es plus belle que toi. Toi, semblais serpent Congo, qui t'es après charmé petit zozo. »
Au fond du clair-obscur, la traiteuse s'était dirigée vers une série d'étagères sur lesquelles elle entreposait de nombreuses boîtes en fer. Elle en ouvrit plusieurs, soupesant à chaque fois sa décision. Elle renifla longuement le parfum des herbes, picorait une poudre du bout de son médius, en installait deux grains sur l'extrémité de sa langue exagérément rose et finit par déverser dans une casserole un mélange de clous, de cendres, de bourgeons de plaquemine et d'herbes à coquin. Elle allongea la décoction d'une lampée de whisky camphré et mit l'ensemble à chauffer, abandonnant la gamelle sur un trépied qui coiffait l'âtre. Avec piété, elle se signa en passant et repassant devant le Sacré-Cœur de Jésus, encadré dans un sous vert doré et près duquel sommeillait, ainsi qu'un gardien borgne, une minuscule lampe à huile au vert teinté de peinture rouge. Du coin de la prunelle, elle surveilla par la lucarne si Aedius priait comme elle le lui avait demandé. En les ponctuant de génuflexions, elle effectua plusieurs déambulations mystérieuses au fond de la pièce. Affairée, elle revint lentement sur ses pas, tenant à la main un petit morceau de viande au travers duquel, à l'aide d'une aiguille à tricoter, elle enfila une cordelette. Elle glissa cet étrange talisman dans la poche de sa robe à fleurs. Avec adresse, elle retira le récipient du feu, en tamisa le contenu au travers d'un mouchoir de cotonnade et s'en retourna à petits pas en direction de son malade. Concentrée sur ses dévotions, Aedius la sentit approcher de lui à pas glisser. D'une main, elle tenait un ostensoir argenté, de l'autre une tasse ébréchée qu'elle prenait garde de ne pas renverser. Elle lui tendit la tisane qui était sombre et bouillante. Tandis qu'il commençait à boire en s'empêchant de trop respirer, elle entama une série de déplacements autour de lui. Les paupières mi-closes, elle l'environnait de fumée d'encens et répétait inlassablement la formule qui délivre du Konjo et des autres esprits malins. « La paix vini, les grands zombies, la paix vini pour toi, gris-gris !» Dès qu'il eut fini, toujours à deux genoux, de boire sa médecine, elle releva Aedius et lui fit signe de délivrer la poule qu'il tenait en son sac. Elle lui ordonna de lui tendre la galine en la tenant tête en bas par les deux pattes. D'un geste preste, elle avait sorti un couteau effilé de sa grande poche et tout vivant, elle fendit l'estomac du volatile en son long. Elle mit aussitôt la poule sur le bras du malade et la maintint en contact avec les tissus enflammés aussi longtemps que la volaille se débattait. « Tu dois la garder toujours après, grouillée, expliqua-t-elle, et le sang chaud ragaillardit ton bras. » Quand la poulaille fut raide, elle prit le poignet d'Aedius et le fit s'accroupir en face d'elle. Elle tira de sa poche une clochette qu'elle posa près d'eux dans la poussière du chemin. Elle emprisonna les deux mains de l'homme dans les siennes, qui étaient douces et froides. Leurs yeux étaient presque au même niveau. Ils se regardaient sans rien dire, et Raquin n'osait pas bouger. Les lèvres de Mlle Grandoy étaient entrouvertes. Une buée de transpiration perlait entre ses seins. Une respiration calme montait de sa poitrine. L'air semblait immobile. Aedius attendait, plongé dans une sorte de respect mêlé d'effroi et d'émoi sensuel. Brusquement, la noire recueillit un peu de sang au creux de sa main droite. Elle dessina une croix sur le front d'Aedius, puis ses doigts se lovèrent sous son aisselle et vinrent se poser sur son sexe qu'ils enserrèrent furtivement. « Voilà, c'est fait !» dit la traiteuse. Tu sens comme j'ai froid ?
Charité, pas même si c'est une patate de graton. Les mardis gras sont sur un grand vol. mot de la charité. Comme un petit saint Paul mec et trop quatre que ton maillis. Capitaine, capitaine, voyage ton plein, galant chez l'autre voisin. Mandez la charité, aux autres venez nous joindre. Pour les autres, tu venez nous joindre, ouais, au grand bon ce soir.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Un grand pas vers le bon Dieu, Jean Vautrin. Elle lui donna ses mains à tâter, exigea qu'à son tour il les emprisonne dans les siennes. Pendant un long moment, elle sembla privée de mouvement et de chaleur. Ses yeux ternes comme des miroirs de glace noircis contemplaient le vide. Le mal s'en va, chuchota Mlle Grandois. La contrôleuse d'esprit sembla soudain s'éveiller au monde. Son regard avait reconquis cette lueur de vie fuyante et gaie qui lui était familière. Elle agita la petite sonnette posée à portée de sa main et commanda « Hé, garçon, lève-toi !» Elle se dressa à son tour. Et tirant le médaillon de viande de sa poche, elle en attacha la cordelette autour du cou de son patient. « Quand le gris-gris va tomber, le mal va tomber, » dit-elle. Edius ramassa son chapeau dans la poussière et chercha sa voix avant de pouvoir parler. Ayant toussé pour l'éclaircir, « Combien tu vas me charger ? » demanda-t-il. « Je peux donner une pièce. » Un éclair de colère mauvais passa dans les yeux de la noiraude. « Eh, espèce d'imbécile, d'idiot, de faux couillon !» cria-t-elle. « À pleine tête, t'es pareil comme tous les blancs, toi. Un traiteur peut pas prendre d'argent. Son traitement prendrait pas. » Elle le poussa devant elle, le remit dans la direction de sa pirogue. « Va-t'en maintenant. Te retourne pas pour ta peine. » Et comme il s'éloignait, Edius entendit clairement, venant de l'ombre du cyprès qui s'élevait en courbe derrière la cabane, le hennissement du cheval Bronc. Il s'immobilisa. Il n'osait pas tourner la tête, ni rien. « Mlle Grandois, » interrogea-t-il d'une voix tremblante. « Est-ce que le grand zombie serait pas descendu de cheval devant votre porte, par hasard ?»« Attends chez toi, retourne à ton camp, Edius Raquin, » répondit la traiteuse. « M'ont sauvé mon âme des flammes de l'enfer et toi rejoindre ta femme. » »« Il est là, n'est-ce pas ? » ?»« Ne cherche pas à savoir ce qui est derrière toi, j'ai dit. » »« Mais il est là, n'est-ce pas ? » insista-t-il. Le mort, avec ses yeux transparents et ses grands rakabatcha. Il est là. All right, Edius. Mais c'est peut-être pas un mort. Il faut t'habituer. La nuque de Raquin bougea imperceptiblement. C'est un vivant blessé, alors ? Demanda-t-il sourdement. Quelqu'un comme ça ? Avec un pistolet ? Mais c'est proche effrayant, non ? Assez effrayable pour faire la Vierge pleurer et le diable peur. Il se retourna d'un bloc. Elle se signa bien vivement. « Qui t'a fait, vieux imbécile, de te retourner comme ça ? Maintenant t'es venu dans le cercle. Tu pourras plus sortir. » Mais rien n'aurait pu retenir le bougue. Il s'élança dans la chaleur, bouscula la noiraude qui se mettait en travers de son élan et, galopant sur la terrasse de planches qui entourait la cabane, remonta un ruisseau de sang séché. Il arriva de la sorte devant la fenêtre au volet tiré et, après une courte hésitation, l'ouvrit à deux battants. Torse nu, le visage partagé en deux par l'ombre et la lumière, l'homme était étendu sur le dos et reposait sur un double oreiller. Son bras droit était bandé. Dans sa main gauche, il pointait un colt en direction de la tête de Raquin. « Maintenant, t'as un sacré secret sur la langue, Pop !» dit l'étranger. « Qu'est-ce que je vais faire de toi ?» Bien qu'il fût étendu à même le sol, il se dégageait de toute sa personne une impression de force sauvage. Ses yeux gris-bleus étaient inoubliables, si pâles qu'ils étaient ceux d'une bête fauve. Quand il se resserrait sous le pli tranchant des paupières, on y sentait danser la mort. Aedius il eut la promesse implacable de sa fin prochaine et commença à biaiser une reculade. « C'est pas grave, monsieur, » bredouilla-t-il en découvrant sur le sol le flacon de whisky qu'on lui avait chapardé la veille. « C'est pas grave, je sais garder un secret, l'essentiel est que vous soyez pas une apparition. Ça me rassure sur ma fièvre. » Et maintenant, je sais que je vais sûrement m'en sortir. Sûr qu'on va s'en sortir tous les deux, monsieur. » Il dansait sur place, nerveux comme une sauterelle dans un parc de dindes. L'autre avait toujours son envie de tuer dans le regard. « Si vous voulez, monsieur, tenta Aedius, demain, je vous apporterai du lait caillé et des œufs que mes poules auront pondus le jour même. La nourriture fraîche, c'est bon pour les blessures de sang. Ça vous racoquillera la santé. » L'autre Sinoc, encore une fois, avait pas l'air prêt à baisser son arme. Pourtant, sa tête dodelinait comme celui qui va dormir. Au prix d'un effort incroyable, il essaya de se dresser sur ses jambes. Il n'avait plus de force. C'était visible. Et juste comme la traiteuse entrait dans la chambre pour essayer de parlementer, l'homme s'abattit de tout son long, raide évanoui, comme un grand cip de pain pris par la hache. Il a perdu son meilleur sang, dit Mlle Grandoy. Quand je l'ai vu arriver par le petit pont cette fameuse nuit, il n'a même pas eu le temps que je m'élance vers lui, qu'il était déjà tombé du haut de son cheval. Ses beaux yeux traînaient dans la boue. Alors, comme un sac, je l'ai fait passer par la fenêtre. « Et si c'est un bandit, un voleur de chevaux, vous auriez peut-être pas dû le sauver ?» commença Aedius. « Et toi, bourrique, je te sauve peut-être pas ?» Il réfléchit tout de même une seconde. « Moi, je suis honnête. Vous connaissez la différence. »« Qui honnête ?» s'emporta la négrette. « Crois-tu qu'on sauve le monde en aidant un seul homme à la fois ? Lui, c'est un beau garçon. » Pop Raquin se gratta la tête sous son chapeau. L'affaire lui paraissait des plus ennuyantes. En plus, avec son coude qui recommençait à battre la mesure comme un tifère au milieu d'une contredanse, il n'était pas certain de pouvoir s'offrir une querelle avec Mlle Grandoy. « Je me tairai, » marmonna-t-il. « I swear !»« Pas de baragouin, embrouille pas le français mal poli !» et que le couche-mal vienne t'étouffer dans ton lit si tu la fermes pas. » Mlle Grandoy enjamba le blessé et le hala par-dessous les épaules afin de le faire glisser jusqu'aux oreillers. « Je veux sauver celui-là, » dit-elle, en se penchant sur lui. « Et je crois pas que ce soit n'importe qui. « Demain, je lui apporterai des œufs, comme j'ai dit, » promit Aedius. « Mais qui n'exagère pas, un peu, avec son pistolet ? C'est pas parce qu'il m'a tiré la première fois qu'il faudra me crimer la deuxième. » Là-dessus, le fermier attendit pas son reste. Il baissa la course jusqu'à l'écor de la rivière et le temps qu'il atteigne l'embarcadère où il avait laissé son bateau, Mlle Grandoy avait même pas fini de rouler sa cigarette. Accoudée à l'appui de sa fenêtre, elle le regarda s'éloigner dans le fil de l'eau frissonnant. Il se retourna une fois vers la pointe de la presqu'île pour voir caracoler le grand bronque, dont la robe parcourue par des flamèches de nervosité ondulait en frissons incessants. À la manière de celui qui veut saluer quelqu'un, il fit tourner son chapeau de paille au bout de son avant-bras bruni, puis, à grande secousse de sa rame, pirogua sur le canal. Dans la distance d'une courbe, les silhouettes confondues de la barque et de son passager furent masquées de façon momentanée par la chevelure traînante d'un saule. Et après un imperceptible ressurgissement, la coque sombre du bateau, nimbée d'une corolle de lumière plus vive, sembla bue par les reflets de l'onde et disparut définitivement. Exhalant la fumée qui rejoignait doucement l'espace vacant, Mlle Grandois repensa à Raquin. Au bout de la rivière, elle contemplait son absence. Souvent, elle aimait bien appuyer son regard sur le vide laissé par les autres. Dans ces moments-là, elle laissait aller son corps endormi par la solitude et encourageait sans le juger le sentiment qui montait en elle. À cette minute même, elle se sentait débordée par une sensation d'allégresse et de toute puissance. Un peu comme si elle venait de rapprocher les cendres d'un feu où couvait la braise. Elle avait l'espoir d'assister à la naissance d'un incendie. Et peut-être bien, voilà la part du destin. Parce que farouche ferraille Cromley n'avait pas trouvé la force de tuer Raquin ce jour-là, ce dernier, sans que personne sache, allait devenir le meilleur ami d'un des bandits les plus recherchés de l'État du Texas. Plus tard, le vieux monde des habitants du canton de Bayou Népiqué raconterait à ses enfants que 1893 avait été l'année des 7 ouragans. Encore heureux qu'ils y aient eu les nuits, parce qu'on n'aurait jamais su qu'un jour se terminait, qu'un autre commençait, toujours la même monotonie de misère et de mal-sort. Un soleil brut régnait en maître sur la campagne. Il n'en finissait pas de rassir la croûte de la terre, et quand il avait pris toute l'humidité du sol, de nouveau, la masse stagnante des nuages s'accumulait, faisait crouler le toit du ciel. Dans ces périodes où les nuages avaient festonné leur lit, on vivait en permanence sous l'étrange scintillement d'une lumière blanche. On attendait la venue du cyclone. Les gens riaient, sans avoir besoin de rire, prenaient prétexte de la moindre des vérités indiscutables pour chercher dispute à leurs voisins, ne pensaient qu'à se battre et à se méfier, ou, achalés, perdant leurs nerfs, éclataient en sanglots sans raison de pleurer. Dans la région, on parlait de plusieurs suicides bien tristes et chagrinants, des cadjins de l'intérieur des terres qui s'étaient pendus sans crier gare dans leur grange, simplement par désespoir d'électricité dans l'air. Peut-être parce que les récoltes brûlaient sur pied, que le peu qui restait risquait d'être noyé par une nouvelle trombe d'eau, et que c'était trop de malchance de se battre pour une cause morte. Les bêtes n'étaient pas épargnées. On n'osait plus les sortir pour les soumettre au travail. D'ailleurs, quel travail ? Chez les Raquins, on ne vivait plus qu'avec l'espoir que la nouvelle lune contiendrait la dernière eau du ciel, qu'après un ultime ouragan viendrait septembre et le retour des oies sauvages. Voilà pour ce soir donc la suite de ce roman, Un grand pas vers le bon Dieu, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.